Donc, je remercie Bruno Carbone de d'avoir fait confiance à mon côté hématologiste pour présenter ce topo. Je remercie Anne Corté qui m'a aidée pour le préparer et puis toute l'équipe du CNRHP avec qui j'ai appris énormément de choses. Monsieur Brossard également, une petite pensée. Alors, la NASARC est définie par la présence d'un épanchement sous-cutané et l'épanchement dans une séreuse, ou alors une association d'épanchements dans au moins deux séreuses, et va concerner une grossesse sur 3500 environ. Il y a deux grandes catégories, donc la catégorie immune, qui est liée essentiellement à l'alloimmunisation érythrocytaire, et la catégorie non-immune. Donc, j'ai repris les recommandations canadiennes qui sont parues en 2013 sur l'exploration des anasarc. Et finalement, les causes non immunes devenaient les causes les plus fréquentes de par l'optimisation de la prise en charge de l'alloimmunisation érythrocytaire. Donc, parmi ces causes non immunes, on va avoir des anémies, des causes non immunes d'anasarc, on va avoir des causes liées à l'anémie qui vont être très fortement suspectées sur le pic systolique de vélocité à l'artère cérébrale moyenne. Et ça va nécessiter une prise en charge urgente de diagnostic prénatal pour pouvoir faire une ponction de sang fœtal en urgence pour pouvoir avancer dans le diagnostic avant la mort fœtale in utero. Donc si on regarde sur une série de plus de 5000 cas d'anasarc non-humain qui avait été repris par Bellini en 2009, finalement les causes liées à une maladie éventuellement hématologique, c'était de l'ordre de 10%. Et à cela, il faut rajouter les causes donc, liées aux infections, au premier rang desquelles donc, le parvovirus B19. Donc on va avoir dans à peu près 15% des cas une cause éventuellement anémique dans l'anasarc non-humain. Une autre série allemande qui, elle, s'intéresse plus aux étiologies de l'anémie sans forcément qu'il y ait d'anasarc. Donc, dans leur série, il y avait 73 anémies fœtales hors grossesse gémellaire monocoriale et on voit que finalement, il y avait 15 causes qu'ils avaient étiquetées comme inconnues au moment de la première ou de la deuxième transfusion. Et parmi ces causes inconnues, il y en a 4, donc 25%, qui sont des hémorragies fœto-maternelles qu'ils ont diagnostiquées a posteriori, donc qu'on ne classera pas forcément dans les causes méconnues pour nous. Mais ensuite, on voit qu'il y a 6 causes qui sont des cas uniques d'anémie de Blackfan diamond, de maladie de la membrane, etc. Et il va persister un tiers de causes inexpliquées et qui, dans leur série, ont à chaque fois été résolutives après transfusion in utero. Donc, si on reprend un petit peu les mécanismes pour essayer de comprendre le bilan qu'on va faire, avant de détailler la série du CNRHP, on a trois mécanismes principaux. Donc, les hémorragies, qu'elles soient vers la mère ou vers un autre fœtus, dans le cas des grossesses monocoriales. On a les causes hémolytiques qui vont être soit d'origine vraiment liée aux globules rouges, soit des causes périphériques, et enfin les anémies centrales. Donc les anémies liées à une maladie du globule rouge, il va y avoir différentes étiologies, donc soit les anomalies de la membrane, qui sont représentées par les sphérocytoses, et puis tout un tas d'autres pathologies qui vont avoir un aspect particulier sur le frottis qu'on va pouvoir faire lors des ponctions de sang fœtal. Ces maladies, elles sont souvent à transmission génétique, autosomique récessive ou dominante. On a les déficits enzymatiques des globules rouges, donc la plus fréquente étant le déficit en G6PD, qui va être fréquent dans surtout certains contextes géographiques et qui va avoir une transmission autosomique liée à l'X, et on va pouvoir doser ce G6PD chez les parents ou éventuellement même chez le fœtus. Le déficit en pyruvate kinase, qui va être le plus fréquent dans les populations non exposées au G6PD. Les hémoglobinopathies, finalement, il n'y a que la forme d'alpha-thalassémie dans sa forme complète qui va nous intéresser là, donc qui est l'hémoglobinose de Barthe. Vous voyez que l'incidence en France est très rare, hein, 0,1% d'alpha-thalassémie, mais dans, en Chine, il y a des séries qui rapportent plus de 50% d'anasarques non humains liés à l'alpha-thalassémie dans sa forme majeure. Donc il faudra savoir le rechercher dans certaines populations. Quand on est hors anémie, anémie hémolytique de cause vraiment liée aux globules rouges, on va avoir les hémolyses qui sont immunes, donc l'incompatibilité dont on a pas mal parlé, et puis les hémolyses dans des cas de fœtopathie virale ou infectieuse, type CMV, syphilis ou d'autres agents pathogènes. Alors, à côté de ça, il y a les anémies centrales. Donc là, on vient de voir avec Guillaume Massé l'atteinte médulaire par le parvo B19. C'est effectivement la première cause d'anémie centrale qu'on va dépister. Il peut y avoir des syndromes myéloprolifératifs, notamment dans le cadre de la trisomie 21 ou d'autres anomalies chromosomiques. Donc un karyotype sera systématiquement réalisé. Et ensuite, on va rentrer dans des pathologies qui sont un peu moins connues. Donc, comme la dysérythropoïèse ou congénitale dysérythropoïétique anémia, qui va se traduire par une érythropoïèse inefficace. Et sur le frottis, on va avoir des aspects anormaux des érythroblastes qui vont permettre de classer en différents types. Le plus fréquent étant le cas, le type 2, qui est transmis sur un mode autosomique récessif, et il y a plusieurs cas anténataux qui ont été rapportés. Dans le type 3, c'est une transmission dominante, donc il y a des publications rapportant des mères atteintes qui le transmettent à leur fœtus. Autre cause centrale, l'érythroblastopénie congénitale ou anémie de Black-Fan-Diamond, qui a été souvent évoqué dans nos dossiers d'anémie non élucidée. Donc vous voyez que ça survient de façon très exceptionnelle, 1 sur 150 000 personnes, enfin cas, l'incidence est de 1 sur 150 000. Donc la transmission est autosomique dominante ou des mutations de novo, et ces mutations ne sont connues que dans moins de la moitié des cas. Donc là également, il existe des cas rapportés quand la mère est atteinte d'une anémie de Black-Fan-Diamond, elle peut le transmettre à son fœtus et on devra surveiller la survenue d'une anémie anténatale. Dans la moitié des cas vont s'associer à cette anémie des anomalies associées morphologiques, donc il va falloir rechercher, surtout au niveau d'une éventuelle fente palatine, d'anomalies du rayon radial qui peuvent être relativement frustres et qu'il va falloir bien détailler en échographie. Donc on parle finalement, dans ces différents cas d'anémie de Black-Fan-Diamond qui ont été suspectés dans notre série, il y avait des demandes de dosage d'adénosine désaminase qui sont effectivement fréquemment élevées mais qui ne sont pas du tout spécifiques de cette pathologie. Et finalement, c'est le frottis médulaire qui va permettre le diagnostic avec cette érythroblastopénie isolée. L'anémie de Fanconi, on l'évoque également, mais finalement, en anténatal, c'est plus les signes malformatifs qu'une anémie pure qui va nous orienter vers cette pathologie. Donc finalement, qu'est-ce qui va être systématiquement réalisé lors de la découverte d'une anémie et d'un anasarque chez un fœtus? Le test de Kleiower et les RAI, ça fait de doute pour personne. Et chez le fœtus, il va falloir, lors de la première transfusion, bien être méthodique sur le bilan qu'on va pouvoir faire, parce que si la plupart du temps on va tomber sur une infection à parvovirus B19 ou sur une alloimmunisation ou une hémorragie fœto-maternelle, de temps en temps on sera dans une cause complètement inexpliquée, et si on n'a pas fait ce bilan au départ, après on sera gêné par l'éventuel sang qu'on a pu transfuser à la patiente, enfin au fœtus plutôt. Donc on fait une numération et une formule sanguine pour voir l'importance de l'atteinte et quelles lignées sont touchées. la réticulocytose et les érythroblastes qui sont regardés également sur le frottis en lien avec des laboratoires spécialisés qui vont nous répondre sur ces éventuelles anomalies. On fait une analyse en ectacytométrie qui est en fait l'étude de la déformabilité des globules rouges qui vont être pertinentes dans les anomalies de la membrane du globule rouge mais aussi dans les contextes de dyserythropoïèse. Le test de Coombs direct à la recherche des anticorps sur les globules rouges, le dosage de la G6PD et de la pyruvate kinase dans le sang fœtal éventuellement, donc un cariotype qui est toujours proposé à la patiente, les étiologies infectieuses que sont le parvovirus B19, le CMV et l'interféron, de manière systématique et ajoutée depuis 5 ans environ un bilan hépatique. Et il va falloir aussi, pour ce fœtus, avoir une échographie morphologique attentive à la recherche donc, d'une hépatospleno-mégalie, d'anomalies du rayon radial, du palais, etc., pour les causes plus rares. Donc la série donc, depuis 2010 comprend en fait 6 cas, chez 5 patients. Donc, la première patiente est une patiente de 35 ans qui avait déjà eu une grossesse molaire et on a découvert un anasarque à 22 semaines avec pic systolique de vélocité élevé. Finalement, ce fœtus avait 1,8 g lors de la première transfusion in utero et il y a eu plusieurs transfusions nécessaires à intervalle de 3 jours à peu près, le temps qu'on essaye d'avancer dans le diagnostic. Et la troisième s'est compliquée d'une mort fœtale in utero, mais à chaque fois, il y avait récidive de l'anémie. Finalement, dans le bilan, il semble qu'on était plutôt devant une pancytopénie puisqu'il y avait 10 000 plaquettes chez ce fœtus, 1000 globules blancs, une absence totale de réticulocytes et finalement tous les bilans qu'on a pu faire, hein, que ce soit viral, les étiologies d'hémolyse, n'ont pas permis de retrouver de cause. Le cariotype fœtal était normal et l'examen fœtopathologique n'a rien révélé de particulier. Donc des pistes génétiques avaient été évoquées qui n'ont pas été confirmées, comme la dysgénésie réticulaire. Et finalement, le conseil génétique qui avait été rendu à cette patiente, c'est qu'on n'était pas sûr que ce ne soit pas une cause génétique et que ça puisse revenir pour une autre grossesse. Donc, pour sa grossesse d'après, la surveillance donc, des signes d'anémie et du pic systolique de vélocité a été normale jusqu'à 27 semaines où on a constaté la récidive d'un anasarque. Là, de nouveau, bilan complet avec lors de la transfusion à 28 semaines, une atteinte élective là, de la lignée rouge avec 3,8 g d'hémoglobine et la présence d'une réticulocytose, donc finalement une anémie régénérative sans anomalie au frottis ou à l'ectacytométrie. Et les causes les plus fréquentes qu'on a essayé de rechercher n'ont rien révélé de particulier. Donc l'évolution a été marquée par la prise d'un avis donc d'hématologie. Une anémie de Black-Fan diamant a été éventuellement suspectée, mais finalement... Je veux bien de l'eau, juste. La réticulocytose... n'était pas très en faveur d'une anémie de Black-Fan diamant. Et finalement, ce fœtus n'a présenté aucune récidive de l'anémie. Merci beaucoup. Et il est né avec 18 g d'hémoglobine et son taux d'hémoglobine a été stable par la suite. À noter juste une thrombopénie néonatale qui s'est rapidement corrigée. Donc finalement, une étiologie qui est... inexpliqué chez une patiente qui a déjà eu un antécédent hématologique. Le troisième cas est le cas d'une patiente qui a été prise en charge pour sa quatrième grossesse. À noter que dans ses antécédents, son deuxième enfant avait aussi eu une anémie transitoire à la naissance sans ictère, n'ayant pas nécessité de transfusion et qui avait eu une évolution favorable. Là, elle est adressée à 26 semaines pour un anasarque débutant avec accélération des vitesses cérébrales. Et elle a été rapidement transfusée avec un premier taux d'hémoglobine à 3,2 g par décilitre. Le bilan initial n'a pas pu être fait entièrement du fait d'un prélèvement coagulé, donc les réticulocytes n'ont pas pu être analysés. Et les plaquettes étaient normales à la fin de la transfusion in utero, ce qui est plutôt rassurant pour les plaquettes avant, puisqu'il y a une chute lors de la transfusion in utero qui est à chaque fois observée. Donc finalement, dans les causes, le frottis et l'ectacytométrie étaient normales, il n'y avait pas d'étiologie virale, un caryotype qui était normal, et dans les causes hémoglobinopathie et enzyme du globule rouge, pas d'anomalie. Donc là, de nouveau, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une anémie de Black Fan Diamond ? L'évolution de ce fœtus a été marquée par la nécessité d'une deuxième transfusion à 30 semaines, puis d'une césarienne en urgence à 39 semaines devant des signes de récidive d'anasarque. Et finalement, ce fœtus a été transfusé à la naissance, puis trois autres fois en postnatal jusqu'à l'âge de 2 mois. Et maintenant, il a il a 2 ans, ce fœtus, ce bébé quasiment, et il n'a pas récidivé son anémie. Et finalement, l'anémie de Black Fan Diamond a été récusée devant la présence d'érythroblastes sur le myélogramme qui exclut cette étiologie. Donc là encore, une étiologie inconnue qui a eu une bonne évolution. La troisième patiente est une patiente originaire du Sénégal avec un conjoint malien qui a déjà eu une mort fœtale in utero dans un contexte d'anasarque à 18 semaines et il n'y avait pas eu d'exploration particulière et elle a une petite fille qui était bien portante. Cette grossesse a été marquée par des signes d'anémie finalement présents depuis l'échographie de 22 semaines et qui s'est prolongée jusqu'à 32 semaines, le temps qu'on fasse des contrôles, qu'on la réfère à un endroit où il y avait la possibilité de faire une ponction de sang fœtal. Et finalement, à 32 semaines, devant l'accélération du pic systolique de vélocité qui n'avait pas été fait auparavant, l'hémoglobine est retrouvée à 3,2. Et là, on a un diagnostic qui est fait in utero sur l'aspect du frottis et de l'ectacytométrie, qui ont montré en fait une déformabilité du globule rouge avec cette forme particulière évoquant une elliptocytose ou une pyropikilocytose. Bon, je ne suis pas compétente pour tout à fait trancher, mais visiblement en anténatal, c'est difficile de faire la part des choses. Tout le reste de l'étiologie, des étiologies n'avait pas avait été recherché et était sans particularité. Donc pour cette patiente, il y a eu une transfusion unique à 32 semaines et demie, aucune récidive de l'anémie et finalement elle a pu accoucher à terme d'un enfant qui avait 16,6 g d'hémoglobine pour lequel je n'ai pas pu obtenir de nouvelles postnatales. Madame G, donc une nouvelle patiente qui a été prise en charge pour un anasarque à 23 semaines, qui, dans le bilan initial, donc sur l'ectacytométrie et le frottis, un aspect en fait d'érythroblastes bi- ou multinucléés qui est très en faveur d'une dysérythropoïèse. Donc, le temps qu'on fasse le bilan et qu'on arrive au diagnostic de dysérythropoïèse de type 2, finalement, cette patiente a été transfusée une deuxième fois et après information par les hématologues, le couple s'est orienté vers une interruption médicale de grossesse et finalement, dans les suites, on a pu retrouver que ce fœtus était porteur donc, de 2 mutations pathogènes dans le gène SEC23B et les 2 parents sont hétérozygotes, donc il existe un diagnostic anténatal possible pour d'autres grossesses. Enfin, le dernier cas, il s'agissait d'une patiente de 17 ans, primipare, qui avait consulté pour diminution des mouvements actifs fœtaux. Un anasarque est découvert à ce moment-là et on fait rapidement une ponction de sang fœtal avec préparation pour une transfusion in utero. Et finalement, le taux d'hémoglobine fœtale était... Enfin, on aurait pu s'attendre à une hémoglobine plus basse, mais il y avait une thrombopénie majeure à 30 000. Les premiers éléments, le bilan a été très incomplet du fait du contexte en fait, d'urgence. Et on a quand même exclu une anomalie de cariotype ou une anomalie type infection à parvovirus B19. Et malgré cette transfusion, à 35 semaines, il y a eu une césarienne pour anomalie du rythme cardiaque fœtal et l'enfant est né en état de mort apparente, faisant suspecter une fœtopathie infectieuse pour lequel, quelques jours après, on a su qu'il s'agissait d'une syphilis congénitale sur un aspect radiologique. Donc, au total, sur nos 6 cas d'anémie hors cause habituelle, il y a dans 50% des cas des causes qui sont restées inexpliquées, dont les deux tiers qui ont été résolutives. Il y a un cas de fœtopathie syphilitique, une anomalie du globule rouge et une dysérythropoïèse de type 2 qui ont été diagnostiquées par le frottis et l'ectacytométrie. Donc, il faut être très méthodique lors de la première transfusion in utero, de bien prélever et envoyer au bon laboratoire spécialisé les examens type frottis et type ectacytométrie pour ne pas se retrouver dans la situation de ne rien avoir à dire et de ne pas savoir quoi faire d'une anémie chez le fœtus. L'examen morphologique est également important et le conseil génétique ensuite. Et il persiste quand même des causes inexpliquées qui peuvent être résolutives sans qu'on ait du tout d'explication à tout cela. Voilà, je vous remercie.